pourtant, les villageois qui vivaient aux abords des réserves d'Afrique n'ont pas pu pratiquer leurs rites et leurs traditions dans ces réserves. Aujourd'hui, certains de ces espaces ont été reclassés, réserves de biosphère par l'UNESCO. Les lois ont donc changé. Ces espaces de conservation en Afrique de l'Ouest n'excluent plus les hommes et leurs pratiques.
Alors, pour illustrer cette réhabilitation de la tradition dans les réserves de biosphère de l'UNESCO, nous vous proposons maintenant de partir dans les parcs de la Pendjari et du W en Afrique de l'Ouest avec votre reportage. Agnès Rougier, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour Anne-Cécile.
Alors, vous nous proposez de découvrir une situation qui a bien changé, qui a quand même évolué avec le temps.
Oui, ça a beaucoup évolué, parce que si on fait quand même un bref retour arrière, ce qui était le cœur des réserves, ce qui est aujourd'hui le cœur des réserves de biosphère, qui était au départ des parcs donc classés par la colonisation, la population était totalement interdite de séjour à l'intérieur de ces parcs. On les a même obligés à quitter le cœur de ces réserves. Aujourd'hui, et depuis les années 80, l'UNESCO a commencé à classer ces endroits en réserve de biosphère, et c'est le programme MAB, donc, qui signifie Man and Biosphere, ce que ça veut dire, c'est l'homme et la biosphère. Et donc de monter un programme comme ça, c'était mettre l'homme au centre en fait de la conservation, c'est-à-dire c'était changer complètement la façon de penser l'environnement et la conservation de l'environnement.
Une approche tout à fait nouvelle.
Oui, complètement. Donc ça a dû mettre en relation les populations, les responsables des réserves, notamment par exemple les forestiers qui sont des fonctionnaires et même des militaires en fait en Afrique de l'Ouest, les fonctionnaires des eaux et forêts. Et les populations. Donc tout le monde a dû se mettre à réfléchir à comment travailler ensemble.
Alors aujourd'hui, le mouvement est en marche, hein, mais cette histoire a laissé des traces.
Ça a laissé des traces, parce que de toute façon, les villageois ont été expulsés du cœur il y a longtemps. Donc maintenant, ils habitent dans ce qu'on appelle les ZOC, hein, les zones d'occupation contrôlée, donc ils sont autour du cœur des réserves. Mais ils ont demandé, et ils peuvent demander aujourd'hui à aller pratiquer leurs rites et leurs traditions à l'intérieur même de ce cœur. Et ce sont des autorisations qu'on leur donne en général. Hein. C'est le cas en tout cas dans les parcs de la Pendjari au Bénin, dans le parc du W. Le parc du W, pour mémoire, c'est un parc transfrontalier qui est à cheval sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Et donc, dans ces endroits-là, effectivement, ils peuvent demander à aller pratiquer leur tradition. Et en fait, c'est un retour. Il faut aussi qu'ils s'y remettent.
C'est ce qu'on entend dans votre reportage.
Voilà, c'est ce qu'on entend. On va commencer avec Ama Abdou, qui est guide dans le parc du W. Je l'ai rencontré au Bénin, même s'il travaille surtout sur le Niger. Il a accepté de poser quelques questions justement à Fatouma, qui est une vieille dame, qui habite un village aujourd'hui frontalier du parc, anciennement à l'intérieur du parc du W. C'est le long du fleuve Niger. Et jusqu'en 1950, évidemment, elle habitait dans le parc même. Elle a connu ce déplacement.
Ils disent qu'il y a des crocodiles, beaucoup de crocodiles dans le fleuve, mais moi je les ai dit, moi je n'ai jamais vu un crocodile. Ils disent par contre il y en a, parce qu'on voit beaucoup les berges là où ils remontent, aller de l'autre côté dans la réserve du parc, aller faire leur terrier et tout ça, et se reproduire, prendre leurs œufs et revenir après dans le fleuve. Mais ils disent qu'il y a des gros crocodiles, que souvent ils sortent vers 5h du matin. Il y a des fois, tu arrives à les trouver et ils ont traversé, coupé le fleuve en deux, quoi. La tête là-bas, la queue là. Et moi, j'ai dit, c'est pas un crocodile, c'est un génie, parce que sinon, comment il arrive à avoir cette taille-là? Ils disent, c'est vrai, c'est des crocodiles, mais qui sont devenus mystiques, quoi. Donc, du coup, ça fait qu'ils ne sortent que rarement et aussi tard la nuit, quoi. Donc, pour éviter les affrontements avec les humains.
Et bien à l'époque, quand il n'y avait pas le colon, avant de les déserpier du village, la Tangou, le chef, leur grand-père, c'est lui le chef du village. Et à l'époque, lui, là-bas, à côté de quand il y a un lion qui rugissait, quelque chose comme ça, il sait bien qu'il ne s'en va pas. Et il appelle le lion. Et le lion vient, il le prélève, parce que des fois, c'est des épines qui lui piquent aux pattes, et il enlève les épines, il dit au lion de partir, le lion part. Donc ça veut dire que déjà, il sait bien qu'il y a les animaux, il se communique avec eux, il les aide à soigner, à les soigner, tout ça. Mais c'est vrai, ils sont vexés un peu d'avoir quitté l'endroit, et du coup, eux, ils connaissent l'endroit, ils parlent à l'endroit de leurs enfants, ils leur disent tous l'histoire de l'endroit, mais jamais ils auront l'occasion d'aller montrer aux enfants que voilà le milieu que nos parents, jusqu'à nos grands-parents, et tout ça, mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire ça.
Là, on est en voiture, on quitte le parc W pour aller vers la Penjari. Nous sommes sur une piste ensemble, Kianti Yanti Bossé, vous, vous êtes l'anthropologue, et vous travaillez justement sur l'archéologie des anciens sites habités dans les parcs comme celui-ci, justement.
Ça, c'est un site qui a été habité. Et si vous allez là, j'ai eu la chance de visiter le site il y a quelques moments. Lorsque les gens reprenaient la route, ils ont fait une carrière quelque part. La carrière qui m'a permis vraiment de retrouver beaucoup de vestiges, aussi bien des poteries, les instruments qui ont été utilisés de façon domestique, les habits, bon, les bijoux, oui, et parfois même les fétiches qui sont contenus dans des pots. Bon, certainement des trucs qui servaient d'adoration. Quand les gens se sont déplacés, ils ont abandonné. Donc, ce site-là, je l'ai visité, j'ai retrouvé tout ça là.
Kenneth Amunanti, nous sommes ensemble sur cette piste pour retourner vers le W Bénin. Vous êtes socio-anthropologue et nous arrivons dans le cœur même de ce parc du W, tout près du point triple, juste à la frontière des trois pays, c'est-à-dire Niger, Burkina Faso et Bénin. Et précisément, on arrive aux chutes de Koudou. Là, nous sommes juste au bord de cette rivière Mikrou, un endroit totalement sauvage. Et pendant la saison des pluies, là où nous sommes, justement, la rivière gronde. Vous entendez ?
C'est un lieu habité par les peuples qui sont tout autour ici. Et ça, les archéologues l'ont attesté. Les populations de l'actuel Burkina, du Niger, du Bénin, habitaient déjà cette aire-là, qui, à partir des années 50, a été classée et morcelée, et, bon, disons ça, c'est partie béninoise, partie burkinabèse, partie sud. Du coup, les populations continuent d'avoir un lien étroit avec cette aire qui est aujourd'hui protégée. Donc, tantôt de dire qu'elles avaient été exclues de la protection, et ça a eu toutes les conséquences que ça peut avoir. Avec, disons, l'appui de l'Union européenne, nous avons dû changer d'épaule au fusil en impliquant les populations à tout le processus de protection de cette aire. Et c'est dans cette dynamique que nous nous trouvons aujourd'hui. Nous ne faisons plus rien sans les populations riveraines. Les sacrifices que les populations tentaient de faire ici les nuits, parce qu'à un moment donné, elles ont été renvoyées. Les sacrifices qu'elles tentaient de faire ici la nuit, permettez-moi de vous dire que l'année dernière, en ce moment précis, j'étais avec le roi de Banekwara sur ce site pour assister officiel aux sacrifices qu'il faisait sur les chutes de Koudou. Donc avec l'appui du programme EcoPass et donc de la direction du parc W. Donc c'est en communion maintenant. C'est un acte social qu'il faut placer à sa juste valeur.
On ne peut pas penser préserver un endroit en excluant la population.
En excluant la population et en ignorant les enjeux qu'elles ont par rapport à cette aire. C'est un enjeu sérieux, la religion. C'est très important, c'est fort. Puisque les gens y croient, vous devez faire avec.
Ouais, bon, là-haut, l'eau quitte là.
La petite chute là-bas, alors là on est aux basses eaux. Hein.
Oui, c'est une bonne chute ça. Les nofs chutaient correctement pendant la saison pluvieuse. Correctement, on ne voit même pas ces pieds-là. Même le sable qui est là-bas, on ne voit même pas le sable. Hein? Ici, tout est avec l'eau. L'eau, ici, c'est encore voir.
C'est une eau puissante qui va vite, qui emporte tout.
Puissante. Ah, l'eau est très très puissante. Très très puissante.
Et les animaux, quand l'eau est haute, ils viennent quand même ? Comment ça marche ?
Non, ils ne viennent pas ici. Ah, les animaux ne viennent pas. Les autres aussi, ils ont eu peur pour l'eau. L'eau va l'emporter en même temps sur place. C'est bien. Ça là, le colis là, c'est ça qu'on appelle koudou.
Alors c'est ce gros rocher qu'on voit là, gros rocher rond, oui, qui est posé.
C'est ça qu'on appelle koudou.
Il reste en équilibre tout le temps, même quand les eaux sont tumultueuses.
Oui, c'est comme si on peut le prendre tout de suite, c'est comme un colis.
Ah oui.
Et attention. Vous descendez, hein. C'est très très profond.
Alors c'est une eau dans laquelle vous vous baignez aussi. Ça arrive que les
on
humains.
On ne baigne pas, hein.
Ah non.
Non non non. C'est très très profond. Il y a les hippos dedans. Il y a les caïmans dedans. Les caïmans sont dedans. Les hippos sont dedans. Donc, il est formellement interdit. Doucement, hein.
Par où on passe là alors, hein?
Bon, on continue.
Et oui, je vous suis, allez-y. Donc là, c'est des gros rochers, là, qui sont roses avec la lumière du soleil. C'est très, très beau. Alors, où est-ce qu'ils viennent quand ils font des sacrifices, les gens de Manikohara, par exemple, Paul?
Ils viennent ici, là.
Sur la rive en face?
Sous le baobab qui est là, avec les feuilles vertes, là.
Oui.
C'est là qu'ils viennent faire les sacrifices.
Et ils viennent à nombreux?
Beaucoup.
Oh.
C'est des camions qui les amènent.
Ah, d'accord, ils viennent en camion.
Oui. On va passer par ici.
Je vous suis.
On va passer par ici. Ça glisse un peu.
Ouais. Ce sont de beaux rochers, rouges, orangés, tout lisses. Yeah. Bonjour. Nous sommes ici donc à Manikohara, dans le royaume de Manikohara. Avec vous, Sa Majesté Nansuno, c'est cela, le roi. Et quels étaient les animaux qui étaient vos amis, qui étaient ceux avec qui vous aviez des relations privilégiées?
Bon, les animaux amis que vous demandez maintenant, il y a le serpent bois, il y a le lion, et il y a aussi les crocodiles qu'on adorait aussi, qu'on protégeait, nous-mêmes, on ne veut pas qu'on les tue. Donc c'était les amis là.
Et par contre, ce que vous chassiez, c'était donc, oui, les éléphants, mais qui d'autre?
Et les antilopes, rien que pour manger. Mais l'arrivée de notre ancêtre ici, lui, la chasse qui le tient à cœur, c'est la chasse aux éléphants. On vivait de la chasse d'éléphants et d'autres chasses encore. Bon, de même, en même temps, on protégeait aussi la nature, puisque au milieu du parc là, nous avions un fétiche que nous adhérons tous les ans. C'est ainsi que, arrivé là-bas en faisant les sacrifices, nous, on renvoyait les mauvais chasseurs qui venaient, qui ne sont pas de nous. Donc c'est ainsi que la partie est protégée, d'abord par nous-mêmes, avant l'arrivée des Blancs.
Alors dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, à Mahabdou, il y a à peu près autant de totems que d'animaux, n'est-ce pas?
Il y en a certains, leur totem c'est le boa de Seba. Il y en a leur totem c'est le varan de Nil. L'autre aussi c'est le varan terrestre. Donc le varan de Nil et le varan terrestre c'est les deux frères, si tu veux, du même père, même mère. Mais seulement le varan terrestre, il était vraiment quelqu'un qui sortait beaucoup, lui allait voir pour l'aventure, tu vois, de la nature, dans l'histoire. Je te reviens maintenant dans l'histoire de ces deux. Et du coup, l'autre qui était celle de Lille aussi, lui, c'est quelqu'un qui s'éloignait jamais de la foyer, de la famille, quoi. Donc l'autre est parti s'amuser loin. Autant qu'il revient, il a trouvé son père est mort. Donc avant que le père meure, il a donné conseil au frère qui est resté. Il a dit au frère, bon, moi je vais mourir, mais moi je vais te donner un conseil. Le conseil, voilà, ça veut dire ne t'éloigne jamais de Pondo. Dès qu'il y a un danger, tu te plonges dedans et tu es sauvé. Bon, le père est mort, l'autre est parti. Et l'autre, lui, comme il est parti pour sa petite balade, il revient maintenant. Il ne retrouve plus le père, et ni le frère aussi. Donc lui, c'est ce qui fait qu'il est resté comme ça dans l'espace. Donc l'autre, lui, est resté dans l'eau, et l'autre, lui, est resté terrestre. Donc ça fait que l'autre est aquatique, et l'autre n'est pas terrestre aussi. Donc du coup, ça fait le varan de Nil et le varan terrestre. Donc voilà, et donc il y en a qui soit c'est leur thème, le varan terrestre, parce que dans l'histoire ça veut dire qu'il a aidé soit leurs parents ou quelque chose comme ça, et lui aussi c'est leur thème parce qu'il a aidé aussi leurs parents ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi chacun a sa thème.
Dafarou Ali Tiomoko, vous êtes le directeur de cette réserve de biosphère de la Penjari depuis 1998, je crois. Et vous avez dû sûrement commencer par résoudre justement ces problèmes de cohabitation rituelle, si l'on peut dire, entre la réserve et les populations.
Dans une de nos zones de chasse, qu'on appelle la zone de chasse de Batia, il y a une mare appelée mare Bori. C'est une mare qui est sacrée pour les communautés locales. Depuis les temps immémoriaux, les gens allaient faire des cérémonies, la pêche traditionnelle, font des aménagements chaque année et se sont imposés de ne pêcher que tous les deux ans et pas chaque année, le temps de laisser la ressource se reconstituer. Et ça, lorsque la réserve a été classée, comme toutes les autres ressources, les populations étaient interdites d'accès. Mais elles ont, à leur manière, continué donc de résister à cette décision arbitraire. Et c'est là où j'ai parlé des pièges qui sont tout autour de la mare pour détruire les animaux et même pour prendre les patrouilles d'anti-braconnage. Donc c'était une situation invivable pour les agents même du parc que pour les animaux. Et donc dans notre approche de partenariat avec les communautés locales, de faire en sorte qu'elles profitent des ressources de la réserve, quand bien même le zonage prévoit que cette partie c'est pour la zone de chasse, dans la mesure où elle a été identifiée, cette mare, comme un lieu de culte. Alors depuis pratiquement 6 ans, officiellement, on permet aux populations, sur la base de contrats, d'accéder à ce lieu de culte, et ceci en accord avec les sociétés privées qui gèrent cette zone. Il y a une période où on leur permet de faire des aménagements, des barrages, comme dans l'ancien temps. Donc cette activité a été réhabilitée. Donc, ils ont une période où ils vont faire des aménagements. Et après quelques mois, maintenant, ils font tout le culte, les cérémonies, ils sortent des crocodiles de l'eau par des incantations. Les crocodiles qui ne peuvent pas partir, les petits crocodiles, ils les récupèrent, ils les gardent soigneusement, ils font leur pêche sans danger. Et après, ils remettent les crocodiles, ils sautent les barrages et la mare se remplit à nouveau. Et depuis qu'on a autorisé cette activité, on a vu les populations sortir tout ce qu'il y avait comme piège autour de la mare. Et voilà, on retrouve maintenant la vie autour de cette mare, fréquentée par les éléphants, par les buffles, par toutes sortes d'espèces animales.
Alors vous, Kenna, vous êtes socio-anthropologue. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail que vous avez entrepris, d'ailleurs vous-même, avec toutes les populations des 85 villages riverains du parc?
Je commencerai par un premier indicateur que vous pouvez vérifier vous-même tout de suite, madame. Nous sommes à un poste de garde à côté. Allez-y voir si vous allez voir du kaki là. Il n'y a pas de kaki, il n'y a pas d'armes là. Vous n'avez que les représentants des populations et organisés en association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigref. Vous n'avez que deux gardes auxiliaires villageois qui sont là à l'intérieur du parc, au sud de Koutou. Ça, vous pouvez vérifier tout de suite, directement. Oui. Et en plus de tout ce que vous avez entendu, un autre indicateur qui ne se vérifie pas facilement, mais qu'on pourrait accepter suite d'un certain nombre d'analyses, c'est que vous voyez 85 villages autour du parc W. Mais les gardes forestiers, ils sont au nombre de combien? Même si nous supposons qu'ils sont 50. Vous voyez 85 villages autour du parc W. Je dirais un. Les populations, si elles n'étaient pas convaincues, si elles ne voulaient pas que ça avance, si elles n'avaient pas cru au changement et si elles se sont impliquées dans le programme de développement, le parc ouvert sur 85 villages, les populations ont le bénéfice de leur nombre. Un. Elles ont deux,
le bénéfice de la connaissance du terrain. Vous vous imaginez, on peut amener un garde forestier de 500 km. Celui-là, du coup, ne connaît pas la première piste du parc. Les populations tout autour connaissent le terrain parfaitement. Elles n'ont pas besoin d'un véhicule 4x4 pour se développer, pour aller à l'intérieur faire ce qu'elles peuvent faire. Tous les jours, elles ont les moyens parce que c'est une question de vie pour elles. Elles n'ont pas besoin de primes pour aller dans le parc. Donc, c'est pour vous dire que si elles n'étaient pas convaincues, elles ont tous les moyens de faire sauter vraiment cette aire protégée. Si elle est là aujourd'hui et dans cet état où les équilibres écologiques se sont déjà reconstitués, la nature est restaurée, moi je dis que nous devons cette victoire, nous devons ce succès-là aux populations riveraines.
Une émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Et c'est l'heure maintenant de parler avec Serge Auru, le directeur de WWF France.
C'est pas du vent.
Et bonjour Serge.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors vous allez nous parler de l'importance de parler d'une même voix, ça pourrait être vrai à RFI aussi d'ailleurs, et de créer de la valeur solidaire entre ONG.
Ah, je suis solidaire avec vous sur RFI. Et oui, notre monde semble s'essouffler, il trébuche sans cesse sur les crises à répétition énergétiques, alimentaires, financières, économiques et sanitaires. En toile de fond, alors Arnaud, vous me regardez, il faut y ajouter la crise climatique et l'érosion de la biodiversité. Cessez-le-feu, vous allez me dire.
Bah oui.
Au chevet du malade, on se demande, alors docteur, c'est grave? Si l'on donne au malade un remède pour chaque crise, on obtient une courte rémission. En traitant chaque symptôme séparément, le rétablissement n'est pas pour demain. Il faut en effet remonter aux causes et prendre la mesure de la systémique de ces crises. Fin avril 2009, Bertrand Chevassus-Olouis, du Centre d'analyse stratégique, a rendu son rapport sur la valeur de la biodiversité, complétant les travaux du célèbre Pavan Sukhdev. Il y a 3 ans, vous vous en souvenez, Nicolas Stern avait enfin fait réagir les économistes en calculant le coût du changement climatique et surtout de notre inaction. Il nous faut être pragmatique, car ce qui aujourd'hui n'a pas de prix n'a hélas pas de valeur. Ainsi, le WWF France a consacré sa dernière université de rentrée en octobre dernier, au juste prix écologique, ou comment internaliser le coût écologique de tous les produits fabriqués dans le monde.
Les écologistes doivent donc parler plusieurs langues.
Bah oui, parce que c'est l'économie est quelque chose de très sérieuse pour la laisser aux seuls économistes, et je dirais l'écologie est trop sérieuse pour la laisser aux seuls économistes. Donc il faut parler de l'économie, il faut parler la langue des ONG, celle des humanitaires, des droits humains et de la solidarité. En effet, le changement climatique aura des conséquences sociales importantes. Déjà, le conflit du Darfour est lié grandement au changement climatique. Et la guerre de l'eau, vous le savez bien, n'est plus un scénario de science-fiction. Nous avions exploré l'année dernière, lors d'un colloque au Sénat, organisé avec la sénatrice Marie Blandin, les liens entre guerre et environnement. D'abord, presque étonnés d'être assis à la même table, les écologistes et les humanitaires avaient parlé d'une même voix. Pour résoudre ces crises systémiques, les ONG, œuvrant sans relâche et avec légitimité dans leur domaine spécifique, doivent donc se rencontrer, échanger, construire ensemble et inventer.
Avec un but commun, évidemment, hein, Copenhague, la fameuse conférence de Copenhague en décembre prochain.
Et oui, il faudra y arriver en rang serré, unis avec nos nombreuses convergences, car on le sait bien, on est plus fort à plusieurs. En France, l'Alliance pour la planète avait été un formidable galop d'essai. C'est en effet cette coalition d'associations qui avait été à l'initiative du Grenelle de l'environnement. Un tel rassemblement a pu être possible grâce à de nombreuses discussions sur nos différences et sur nos accords. Ce que nous avons créé, c'est un terrain de valeur partagée, une synergie d'action poussée par l'intelligence collective. On ne remportera rien à Copenhague début décembre 2009 sans cette approche plurielle et commune. Il nous faut faire front commun pour obtenir des engagements ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et convertir l'économie mondiale à la dynamique écologique. Il nous faut être pluriel pour reconsidérer les valeurs évoquant la croissance économique à tout craint et surtout décarboner nos sociétés pour vaincre le péril climatique. Il nous faut être complémentaire pour intégrer la lutte contre la déforestation dans le mécanisme post-Kyoto. Il nous faut être ensemble pour protéger et sauvegarder la Banque du Vital. La Banque du Vital, celle où l'on retrouve la biodiversité, la diversité culturelle, les droits de l'homme, l'équité et la solidarité planétaire. Alors donc Arnaud et Anne-Cécile, je vous parlerai prochainement de l'appel des ONG pour la réussite de la négociation de Copenhague que nous allons lancer d'ici fin mai à mardi prochain.
Merci Serge Aurieux.
Et demain, C'est pas du vent vous donne rendez-vous toujours sur la même planète et toujours à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.